Radio Campus 88.3 FM.
C'est une légende urbaine.
Ah, ça fait du bien un peu d'air.
Hey, Radio Campus, le méridional d'Orléans.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché.
De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
On provoque une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés, bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans Un bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. C'est la dernière émission de l'année 2022 et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Monsieur Mourad Guichard qui est en studio.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Hassan.
Nous parlons dans cette émission de la dernière session plénière de la région Centre-Val de Loire. Les élus ont débattu du budget primitif 2023. Le budget primitif est le premier acte du cycle budgétaire. Parmi les mesures adoptées, la gratuité des transports les week-ends pour les jeunes de 16 à 25 ans de la région. L'exécutif aurait souhaité une gratuité totale. C'était une promesse de campagne, mais la situation de crise actuelle ne l'a pas permis, dit le président de la collectivité, François Bonneau, que nous entendrons dans l'émission. Nous entendrons également Nicolas Forissier, président du groupe d'opposition Union de la droite, du Centre et des Indépendants, sur ce budget qu'ils jugent flou. Et cette session était la dernière pour Charles Fournier, après 12 ans de présence comme conseiller régional Europe Écologie Les Verts et vice-président de la région. Il a été élu député en Indre-et-Loire en juin dernier. Il nous dira son émotion et nous parlera de ses premiers pas au Palais Bourbon. Ce mardi, nous faisons également la rencontre, la connaissance de la Fondation La Vie au Grand Air. Peut-être connaissiez-vous déjà, mais moi non. J'ai eu l'occasion d'être invité il y a quelques jours à un événement de fin d'année organisé par la Fondation et j'ai discuté avec Claire Thiebaud, directrice de la communication, et M. Soulette, qui est le responsable des centres dans le Loiret. Nous écouterons ça. Enfin, l'émission est pour démarrer, vous l'avez entendu, Mourad Guichard, journaliste indépendant, en studio pour cette dernière. Plaisir.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Et nous commençons, Mourad, avec cette information que tu m'as donnée concernant nos confrères de la République du Centre. Une photo qui dit bien, ce qu'elle veut dire, beaucoup. Alors, une photo qui a été prise, je sais pas où, énormément de journaux. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y avait dedans
Alors c'est des numéros de la République du Centre. Ouais. C'est la République du Centre du 8 décembre. C'est plusieurs centaines de numéros qu'on croise dans le hall du Conseil départemental.
Ah, c'était là.
Du Loiret, voilà. Alors bon, bah pourquoi pas. Je pensais sincèrement au départ qu'en fait ces exemplaires avaient été achetés pour distribuer ça dans les services aux élus le jour de la session. Enfin voilà, ça me paraissait pas complètement délirant. Puis quand on zoome sur la photo, on s'aperçoit que la une est très intéressante pour le Loiret puisque Il y est titré « Plan priorité santé », le Loiret sur le front oui. ». Donc c'est un titre très offensif et très positif. Et quand on ouvre le journal, on a le droit à une très grande double page avec plusieurs interventions, plusieurs reportages, plusieurs angles sur le département donne la priorité à la santé et ça se situe sous la rubrique « La REP prend soin de vous ». Et donc on a une interview du président. On a des données chiffrées, on a un camion d'ophtalmologie et de prévention prévu pour 2024. Enfin bref, il y a beaucoup de choses positives. Ouais. Et quand j'ai posé la question, donc, de manière, c'est un sacré coup de bol que le jour où le département du Loiret achète autant d'exemplaires, ce que m'a confirmé hein, le service communication, bim, ça tombe sur des sujets fort sympathiques au demeurant sur la politique sanitaire, de santé ouais, du département.
Mais il faut dire qu'on ne parle pas beaucoup du département sur le sujet. On parlait beaucoup de la région et de l'État. Mais du coup, voilà. Publi-reportage ou pas, tu crois ?
J'aimerais bien
savoir.
On va finir par le savoir. Ouais. Simplement, c'est non seulement ils ont été achetés, mais en plus, ils ont été distribués à la population gratuitement, place du Mar 3. Donc, j'imagine à quel point une institution doit être heureuse du traitement qui est fait de sa politique dans un journal d'information générale qui n'indique nulle part qu'il s'agit d'un publi-reportage. Donc, pour l'heure, on ne sait toujours pas. Simplement, le département parle d'un partenariat. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un partenariat ? C'est très, très flou et très ambigu. Donc, on en saura plus. Hein. Je pense qu'après les fêtes, on pourra vous tenir informé. Enfin, ça dénote quelque chose d'un peu gênant, notamment par rapport au lecteur, puisque le lecteur, lui, ne sait pas qu'il y a eu ce partenariat avec le département. Il ne sait pas que le département s'est mis à acheter des quantités extraordinaires de journaux pile ce jour-là. Et ce n'est pas des choses qu'on achète le matin pour le midi. C'est des choses qui ont été anticipées. Et donc, a priori, le département savait qu'il y aurait un traitement très favorable de son actualité politique dans le journal, le seul, le seul journal de presse quotidienne régionale. Et donc, il y a un problème déontologique évident sur lequel il va falloir être un peu transparent. Quoi. Alors, je sais que là-dessus, sur ces questions-là, questions déontologiques, les médias locaux parlent toujours de oh, « vous nous donnez des leçons ». Ce n'est pas la question. La question, c'est que la critique média, je le redis, je l'ai déjà dit à cette antenne, mais la critique média est nécessaire dans une démocratie. Tu avais interviewé il y a quelque temps,
Loris Guémard.
Absolument, Loris Guémard d'Arrêt sur Image, et qui font ce travail de manière quotidienne et salvatrice. La plupart des grands journaux ont une rubrique de critique média. Il n'y a qu'en région que vraiment c'est quelque chose de très sensible. Ouais. Voilà, et donc à suivre, mais je trouve ça assez amusant. Alors on peut retrouver la photo, si vous avez Twitter, sur mon compte Moumou_Guichard, oui. Où cette photo est très parlante.
Oui, c'est vrai, parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça ? Pourquoi ? Pourquoi.
Mais comme quoi, parfois, c'est un simple petit zoom d'image raconte beaucoup de choses. Et donc, voilà, on attend de la part du département et de la direction de la République du Centre, si tant est qu'elle veuille cette fois-ci, puisque chaque fois qu'on les chatouille, ils sont aux abonnés absents, voire ils bloquent les confrères sur Twitter. On attend des éclaircissements, ne serait-ce que... C'est pas pour nous, c'est vraiment, je le dis, c'est pour les lecteurs. Et je rappelle que la République du Centre et le groupe qui la chapote ont signé une charte de déontologie avec des principes très précis et notamment de conflits d'intérêts comme celui-ci et de contrats passés avec des collectivités qu'ils sont censés suivre et critiquer.
Oui, mais un mot pour les auditeurs de cette émission. Tu le sais, tu en connais certains qui se destinent à ce métier de journalisme. Le partenariat, certains, avec les collectivités, ça existe, mais ce partenariat est bien réglementé. Il faut au moins le préciser sur l'article en disant que c'est du publi-reportage.
Il faut le préciser et idéalement ne pas le faire comme ça a été le cas à une époque, cette fois-ci avec la région, il y a quelques années de ça, ne pas le faire par des journalistes qui, tout le reste de l'année, enquêtent et travaillent sur ces questions-là. On prend idéalement une agence extérieure et on insère, je ne sais pas moi, un 4 pages dans le journal en précisant bien que c'est un publi-reportage. Là, ça interroge et donc j'espère qu'on aura le fin mot de l'histoire, mais je n'en doute pas.
On espère, évidemment. J'ai vu également, là, sur les réseaux sociaux ces derniers jours, une comptabilisation intéressante, une comptabilisation des annulations par qui lisse début ces trams. Alors, ça a été mené par un jeune homme qu'on connaît hein, ici, Constantin, pour cet excellent travail. Et j'ai appris par un communiqué envoyé donc par c'est le Parti communiste hein, qui les envoie.
C'est ça.
On a eu jusqu'à 100 départs annulés là ces derniers jours par Keolis.
C'est ça. Centième annonce, donc ils ont sorti un communiqué pour la centième annonce donc d'annulation de départ de bus Keolis. Alors c'était le lundi 12 décembre et seulement à 15h35. C'est-à-dire qu'on n'avait pas encore les heures de pointe du soir. C'est un travail mené depuis longtemps. Hein. Je me rappelle avoir écrit sur ces questions-là. Je crois que c'était en septembre 2021 pour Maxentre, où Rebelote Chahine avait comme ça comptabilisé l'ensemble. En plus, c'est pas discutable puisque c'est Keolis Tao ou Keolis. Même qui, sur les réseaux, annonce.
Oui, c'est vrai.
Et on a les traces, tout le monde peut y avoir accès. On voit très bien le nombre d'annulations absolument extraordinaire. Et la semaine passée, avant ce lundi 12 décembre, c'était 476 annulations, sans compter, écrivent les communistes d'Orléans, sans compter les nombreux bus bondés, les retards, la débrouille pour aller au travail, à l'école et ainsi de suite. Ce qui a donné, par exemple, sur la ligne 58, le jeudi 8 décembre, le bus n'a pas circulé et a empêché les collégiens de rentrer chez eux à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. Donc voilà, c'est des situations de souffrance. J'ai envie de dire, comme il le souligne, même quand les bus sont à l'heure, ils sont souvent bondés, effectivement, et pareil pour le tramway. Donc c'est une situation qui devrait être prise en compte normalement par la métropole. Et quand on voit les réponses qui ont été apportées par Romain Roy
sur les
réseaux sociaux.
Mais évidemment, Romain Roy, il faut le rappeler, élu à la mairie d'Orléans, mais vice-président de la métropole sur les transports.
Et qui est très actif sur les réseaux sociaux, qui devrait d'ailleurs lever un peu le pied. Je lui ai conseillé à plusieurs reprises parce qu'il finit toujours, comme il l'a encore fait la semaine dernière avant de me bloquer, face à la contradiction. Il retire tous ses tweets et qu'il avait lancé la veille au soir de manière compulsive. Là, il m'a bloqué.
Encore.
Voilà, mais... ça m'empêche pas d'aller voir ce qu'il produit. On ne sait pas trop si c'est lui ou si c'est son double maléfique, à savoir le fameux pirate de Toury. Bon, j'imagine que c'est lui quand même, puisqu'il les a effacés. A répondu que 99% du trafic était nickel, que tout allait bien, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Un peu comme le plan vélo. Hein, le plan vélo extraordinaire n'a jamais été aussi brillant et actif que depuis qu'il est aux manettes, sauf que c'est exactement l'inverse que nous disent les responsables des associations qui travaillent, eux, sérieusement sur ces questions de vélo à Orléans et de pistes cyclables. Et là, donc, c'est 99%, ce qui signifie qu'en fait, on balaye d'un revers de la main tous ces gens qui, le matin, le soir, galèrent avec des bus annulés, mais doublent parfois leur temps de trajet. Et je trouve que c'est pas très honnête. Et entre les éléments de langage de Romain Roy et la réalité du travail fourni par Chahine, qui lui a fait quelque chose de statistique et de documenté, mon cœur ne balance pas entre les deux. Il est évident qu'il y a un problème. Et c'est d'autant plus, je trouve que la situation et la position de Romain Roy est d'autant plus ridicule que, mis à part le fait qu'apparemment il ne prend pas les transports en commun, elle est d'autant plus ridicule que le directeur de Tao lui-même m'avait dit, et je l'avais repris en septembre de l'année dernière, qu'effectivement il y avait de gros problèmes, des problèmes de recrutement, parce que les conditions sociales, les salaires ne sont pas à la hauteur, les conditions de travail ne sont pas à la hauteur. Il avait lui-même reconnu qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait améliorer et le matériel d'un côté et les conditions de travail de l'autre. Il reste un irréductible élu, chef d'entreprise qui confond parfois les deux casquettes, qui, lui, affirme de manière docte, comme ça, le fait que tout va bien, au mépris des usagers qui n'ont pas le choix, pour la plupart, que de prendre les transports pour aller travailler.
Romain Roy, puisqu'on en parle, j'ai vu également sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter, il vantait la dernière publicité sur les trams, hein, sur... Pour ces fins de fin d'année, j'ai bien vu que tu as réagi. Alors, aller voir juste.
Oui, c'est de l'habillage. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont. Alors, c'est de l'habillage dans les deux sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont habillé pour Noël. Noël avant l'heure.
Oui, c'est vrai.
On était dans les visiteurs de Noël ou dans le club Dorothée. Donc, c'est Noël avant l'heure. Il y a des beaux stickers, des belles gommettes posées sur le tramway. Alors que, évidemment, les gens demandent autre chose. Ils demandent simplement qu'il y en ait plus, qu'ils soient plus confortables et qu'ils partent à l'heure dite.
Voilà. Le dernier sujet, le troisième en tout cas, parce que tu es en direct avec nous, tu pourras réagir sur tout.
J'ai le plaisir d'être
absolument
en direct.
Mais sur ce début et de ce décryptage, alors c'est une nouvelle collaboration pour toi avec la valeureuse équipe de Street Press. Ce sont des jeunes gens qui font un journal, il faut le dire, sur excellent, des enquêtes poussées. Alors le sujet qui t'ont pris, c'est un sujet que tu avais depuis longtemps, concerne un certain monsieur Bauer, Alain de son prénom. Alain Bauer est un criminologue reconnu. Enfin, dès qu'on parle de terrorisme et de voilà, il est là, il est sur toutes les chaînes de télé, sur dans plein, pas mal de radios. Et Alain Bauer, on l'a aussi croisé pas mal au début des années 2000 à Orléans, dans certains couloirs et puis dans les rues même. Il était conseiller, je crois, il conseillait la ville d'Orléans à l'arrivée de Serge Grouard sur ce qu'on appelait la vidéoprotection ou la vidéosurveillance, c'est selon. Et ce monsieur, tu savais des choses sur lui, moi que je ne savais pas, notamment, c'est son parcours scolaire.
Oui, il a subi une fronde. Alors c'était une page dans Le Monde que je reprends dans mon enquête de professeurs de sociologues qui tiraient la sonnette d'alarme en disant attention, il n'a pas les compétences pour se présenter comme criminologue, sachant que maintenant, au-delà de criminologue, et c'est pour ça que cette enquête sort aujourd'hui, et je suis vraiment ravi qu'elle ait été prise par Street Press, dont je partage ton avis sur la qualité du travail.
Vraiment.
Je le revoit donc là de manière récurrente parler de tout et de n'importe quoi. Enfin, il est ce qu'on appelle un toutologue, c'est-à-dire qu'il est invité sur les plateaux de télévision et dans les studios pour donner son avis sur à peu près n'importe quoi, bien au-delà de criminologue, puisqu'on l'a aussi qualifié de kremlinologue, puisqu'il a donné son avis sur Ukraine-Russie.
Au pays, on appelle ça l'expert de l'expertise même.
Exactement, c'est ça. Ce sont les experts de l'expertise. Et donc, je me suis dit, tiens, il faut que je reprenne ce dossier. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est un homme d'influence, c'est un homme qui a occupé des fonctions, notamment à l'UNEFID. Il a été, on est au tout début des années 80, il était avec Fuchs, avec Valls, toute une équipe de gens qui va retrouver plus tard et qui vont l'aider. Il va faire fructifier ce fameux diplôme de criminologie. Il va obtenir de la part de Sarkozy une chaire au Conservatoire National des Arts et Métiers, ex nihilo, hein, c'est une chaire qui a été créée pour lui. Ouais. Et il va faire commerce dans le monde entier de ses talents de criminologue. Sauf que, on apprend qu'en fait, il a bénéficié d'un passe-droit à l'époque qui lui a permis de sauter une étape et de passer de Bac+2 directement à son diplôme de criminologue sans passer par une case qui aurait pu le gêner, l'embêter, simplement s'il avait raté ce diplôme. Donc il a bénéficié d'un passe-droit et on s'étonne qu'il n'ait jamais précisé ce point qui me semble extrêmement important.
Bah, évidemment, je suis allé chercher, évidemment, jamais.
Puisque toute sa légitimité repose là-dessus et ça nous renvoie vers d'autres cas plus locaux, dont on a déjà parlé ici, de gens qui se sont targués d'avoir un diplôme, en l'occurrence de meilleur ouvrier de France, et qui ont construit leur carrière sur quelque chose de... Alors là, c'était carrément un mensonge, mais là, c'est quelque chose d'ambigu qui pose la question de savoir si... Pourquoi d'abord ces gens ne sont pas scrutés avant d'être invités sur les plateaux de télé pour savoir au moins si leur parcours correspond à la spécialité qu'ils mettent en avant. Ils sont rétribués très grassement pour leur service, notamment par les services de l'État. Et on découvre plusieurs années après qu'en fin de compte, ça ne s'est pas passé exactement comme ils le laissaient entendre. Et que, voilà, ça quelqu'un qui a toujours, et dans le milieu politique, et dans le milieu syndical étudiant, il a également été, il a occupé les plus hautes fonctions dans une loge de francs-maçons, et ainsi de suite. Donc c'est quelqu'un vraiment qui joue sur ces terrains-là, qui a des amitiés très haut placées au pouvoir, qui lui obtiennent des postes, et là qui lui obtiennent une mise en lumière médiatique que je trouve pour le coup discutable du fait qu'il n'ait pas réellement eu un cursus classique des gens qui, comme tout un chacun, se défoncent toute l'année pour tenter d'avoir leur diplôme. Je trouvais ça un peu gonflé.
Et tu l'avais interrogé quand même là-dessus.
Ah, tout à fait. Alors, il reconnaît les faits.
Bah oui, il reconnaît les faits. Et puis il dit, un étudiant peut, outre la qualité de ses études antérieures, faire valoir une expérience professionnelle acquise au cours d'une activité salariée ou non salariée ou d'un stage. C'est hallucinant.
Alors j'ai repris les textes de l'époque, hein, les textes édités, les textes de loi tout simplement, édités qu'on retrouve notamment sur les sites de l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, pardon. Non, évidemment, on parle là d'une expérience, je ne sais pas, moi qui suis journaliste depuis, 25 ans à peu près, évidemment si je fais jouer ça pour pouvoir prétendre à passer un diplôme, enfin à passer devant une commission qui me donnerait une équivalence, on peut l'entendre 25 ans. Mais je ne pense pas qu'à 22, 23 ans, on puisse avoir une expérience telle. Ou alors, on a vendu des centaines, des milliers de hamburgers. Ouais. Mais à moins d'avoir une expérience qui est commencée à 14 ans, je ne vois pas comment on peut se targuer d'une équivalence comme celle-ci quand on connaît la la complexité notamment de ce qu'on appelle maintenant la VAE, la validation des acquis d'expérience. Ouais.
Ah mais cet article est à lire sur le site de Street Press, courez-y parce que il est en version libre maintenant.
Oui,
et c'est parfait, c'est une, ça s'appelle Alain Bauer a bénéficié d'un passe-droit dans son parcours étudiant par Mourad Guichard sur l'excellentissime Street Press. Allez lire ça. Un ou deux sujets avant qu'on passe un peu de musique et qu'on parle.
J'ai souri ce week-end avec cette histoire de couvre-feu.
Oui.
Voilà, avec le couvre-feu.
Donc
il y a eu un couvre-feu qui a été décidé par la préfecture et accepté par la mairie dans un premier temps à cause du match de la petite finale donc de samedi Maroc contre, je crois que c'est Croatie. Hein,
c'est Croatie. Voilà. Oui.
Je suis pas du tout bon en foot. Ouais. Face à la levée de boucliers de nos éternels commerçants qui disaient que en gros et puis des restaurateurs qui disaient que les gens pourront pas venir acheter un paquet de pâtes et pourront pas venir essayer une paire de chaussures s'ils n'ont pas la voiture qui vient se garer juste en face de chez nous. Serge Gouard, d'un coup, s'est mis à pester comme il sait le faire. Petit clin d'œil, évidemment, à Fabos avec le Sergio Comedy Club. Et a dit, c'est pas normal, il n'y a pas eu de concertation, je ne comprends pas, je demande la levée de ce fameux couvre-feu. Et donc, ça a été levé. Il n'y a évidemment jamais eu d'incident. Orléans est connu pour être une ville extrêmement calme, même dans ces moments-là. Je crois que les derniers moments un peu agités remontent à fin 2018 avec les lycéens, mais c'est quand même assez rare qu'il y ait des problèmes. Et comme l'a bien résumé un compte qui s'appelle Jean-Michel Pas du tout, c'est bon les gars, je crois que c'était quelque chose comme ça, c'est bon les gars, les Arabes ont perdu, on peut remettre des bagnoles partout. Et donc voilà, c'était anxiogène, c'était pas justifié du tout et ça correspondait à une espèce de... Oui, de fantasme et de phobie qui n'est pas forcément nécessaire, surtout en ce moment.
Fantasme et phobie sur les drapeaux, sur les klaxons. Et on se rappelle qu'à Orléans, il y a eu un arrêté, je crois, municipal, sur les mariages dits exubérants. Je me rappelle de ça aussi, non ?
Moi, je l'avais appelé les mariages tristes. Ça favorisait les mariages tristes, parce que c'était, oui, on ne pouvait plus avoir de musique, plus de drapeaux étrangers, suivez mon regard.
C'est ça.
Et pas de klaxons, pas de chant. Enfin, bref, voilà quoi. On allait s'amuser comme des petits fous.
Bon. On va continuer cette émission avec un peu de musique maintenant et puis on revient juste derrière pour parler de la session plénière de la région Centre-Val de Loire, c'était jeudi dernier. Okay.
Say, be everybody else, can't you see? Me. Ain't nobody
I'm all by myself. I'm trying to be everybody else, but now I see I gotta be me. I gotta be me, baby, hit or miss, baby, hit or miss, hit or miss. Ain't nobody just like this, I gotta be me.
Elle a, semble-t-il, inspiré Janis Joplin et même Bob Dylan. Elle s'appelle Odetta. C'est une des grandes voix du blues, du rhythm and blues dans les années 50 à 70. Ça s'appelle Hit and Miss à l'instant sur Radio Campus Orléans et dans À Bâton Rompu.
À Bâton Rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Tous les mardis de 19h à 20h.
Nous allons maintenant parler de la session plénière de la région réunie jeudi dernier. Le gros sujet à l'ordre du jour était le débat sur le budget primitif. C'est le débat qui se pose, qui pose dans chaque collectivité les axes, les grands axes de l'exécutif. 5 heures de débat jeudi dernier sur un budget rédigé dans un temps incertain, vous le savez. Une inflation à presque 7%. Sur les recettes, donc, mais un budget volontaire, selon le président de la région, François Bonneau. On écoute François Bonneau. On remet tout en place. On écoute François Bonneau maintenant sur le budget primitif.
C'est un budget qui, sur ses recettes, est très incertain, puisqu'on touche de la TVA et nul ne sait aujourd'hui quel sera le niveau de consommation dans cette année 2023. C'est un budget qui veut aider les gens à sortir debout de la crise, donc avec de la solidarité renforcée, avec de la même manière des grands projets d'investissement, avec de la même manière un très fort soutien à notre économie. Pour sortir de cette crise, il ne faut pas se croiser les bras en disant « c'est incertain, j'attends que ça aille mieux, j'ai entendu ça ce matin ». Ce serait une erreur. Le choix que nous faisons, c'est de nous engager. Et bien évidemment, on va piloter ce budget en fonction du niveau de réalisation des recettes, en fonction des besoins qui seront exprimés par nos concitoyens, par les entreprises, etc. Il y aura des décisions modificatives. Mais aujourd'hui, nous engageons très fortement ce budget et ça reste un budget complètement contrôlé, complètement maîtrisé. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, on n'a pas encore fini l'année 2022, mais l'année 2021, les résultats qui nous viennent quand on se compare aux autres régions, la région Centre-Val-de-Loire est moins endettée que la moyenne, même si aujourd'hui nous faisons un effort d'emprunt important, la région est moins endettée que la moyenne des régions. Nous maîtrisons complètement, puisque nous sommes allés beaucoup chercher des moyens de l'Europe pour la formation professionnelle, des moyens de l'Europe pour tout ce qui touche aux investissements. Donc un très fort engagement. Un budget de crise, ça n'est pas un budget où on se croise les bras, c'est un budget où on s'engage et nous nous engageons.
Parmi les mesures adoptées figure la gratuité des transports sur les REMI, les transports régionaux, REMI, pour les jeunes de 16 à 25 ans, le week-end. Une promesse de campagne, dit François Bonneau, qui met une mesure de solidarité et une mesure pour l'environnement aussi.
C'est d'abord une promesse de campagne, il faut les tenir, les promesses de campagne. C'est très important que nous le réalisions dès maintenant. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, ils sont touchés par la précarité, ils sont touchés par la difficulté de pouvoir d'achat, ils sont, leurs familles, touchées tout pareil. Et dans un moment comme celui-ci, la priorité des priorités, c'est la solidarité. C'est donc une mesure pour l'environnement. On prend le car, on prend le train, on prend le transport en commun plutôt que la voiture. Ça réduit la production de gaz à effet de serre. Et cette génération y est très sensible. Mais c'est en même temps une mesure sociale, une mesure de soutien, une mesure de solidarité en direction de la jeunesse.
450 000 jeunes sont potentiellement concernés. L'opposition entre abstention et vote contre, malgré ce vote-là, et le vote contre, c'est généralement le Rassemblement national, le budget primitif a été adopté après 5 heures de débat, je vous disais. Pour Nicolas Forissier, président du groupe d'opposition, groupe Union de la droite, du centre et des indépendants, ce budget reste flou.
Dans un premier temps, je veux préciser deux choses. Quand on est dans l'opposition, a priori, on vote, en tout cas quand il y a une majorité absolue, contre. Ce n'est pas un vote de principe. c'est une attitude politique qui permet de bien marquer la majorité et l'opposition, et c'est comme ça en démocratie. Deuxièmement, je l'ai dit ce matin, c'est pas un vote de principe ou pour le principe, c'est aussi un vote parce que nous ne partageons pas la vision qui est exprimée dans ce budget. Quand je dis que ce budget est un budget de saupoudrage, flou, avec une multiplication de priorités qui change au gré des années ou des mois, je dis bien qu'il est flou. Je regrette que ce budget ne se soit pas, surtout dans le contexte économique et social que nous connaissons aujourd'hui, concentré massivement sur un certain nombre de priorités. Je pense en particulier aux priorités du développement économique, du développement et du rebasage de notre budget agricole qui est quand même très en retard. Je ne parle pas des fonds européens, je parle du budget de la région pour l'agriculture, très en retard par rapport à d'autres régions voisines. Voilà, ce sont des exemples, et puis il y en a d'autres. Je cite toujours le fait que nous ne soyons pas capables, malgré mes demandes répétées depuis des années, de mettre un peu d'argent sur la table pour construire une stratégie autour de nos plateformes aéroportuaires déjà artificialisées, Tours, Châteauroux, Châteaudun, notamment, qui pourraient utilement être mises en valeur sans qu'il y ait des investissements exagérés, mais comme des relais de croissance même pour nous par rapport aux plateformes parisiennes qui sont aujourd'hui complètement saturées. Et en plus, ces trois plateformes de la région, elles sont reliées par le ferroviaire. Donc il y a vraiment un modèle de développement qu'on pourrait construire, mais ça veut dire concentrer le tir. Ça veut dire être extrêmement puissant dans l'action, surtout dans un contexte de grande incertitude économique. Je rajoute une troisième chose, c'est que on saupoudre, mais on fait des discours, on dit qu'on a un bouclier social, mais la réalité c'est que en même temps on augmente de 3% les tarifs des cantines. À un moment où chaque ménage doit compter ses sous parce qu'il y a une inflation des prix d'alimentaire en particulier, mais aussi des charges de la vie courante qui est extrêmement importante, je trouve que même si on avait économisé 2%, si on avait fait que 1% d'augmentation, l'augmentation mécanique, vous savez, que vous avez et que font les autres régions, eh bien, on aurait fait un geste. Ce geste-là n'est même pas fait. Et dans le même temps, le Conseil régional, dans son budget, a inscrit 1 million d'euros supplémentaires, sans économie par ailleurs, pour faire un journal. Donc, si vous voulez, il y a un certain nombre de contradictions dans un ensemble qui est finalement un ensemble de saupoudrage, sans véritable effort concentré sur les priorités nécessaires à l'avenir. Et donc, au-delà du fait qu'on est dans l'opposition, on a aussi une vision différente. Nous, on voudrait une région beaucoup plus dynamique et pas une région qui continue en fait à faire du surplace, ce que j'avais dit au moment des régionales, et je constate que ça continue.
Une région qui fait du surplace, Mourad, sur une réaction au mot de Nicolas Forissier.
Du surplace, je veux bien. Alors, j'entends qu'il s'oppose par principe, ce qui est un peu étonnant quand on réfléchit à l'importance que peut revêtir un budget, le vote d'un budget. Alors surtout au niveau régional, qui est quand même, on est sur plusieurs à chaque fois centaines et centaines de millions d'euros. Le coût du saupoudrage, alors, ça fait à peu près, je dirais une quinzaine d'années que j'entends toujours ce même discours.
Pas faux.
C'est pas assez dynamique, c'est du saupoudrage. Je veux bien, sauf que concrètement, et moi je suis toujours, alors je lis très, très humblement, je suis toujours surpris par la capacité qu'ont les régions, alors en l'occurrence la région Centre-Val de Loire, à mobiliser, à intervenir, à mobiliser autant de fonds et intervenir sur autant dans autant de domaines. Alors je pense évidemment au lycée, au transport, mais il y a aussi la santé. La santé, on ne peut pas dire que ce soit du saupoudrage. Je veux dire, François Bonneau est allé chercher le CHU dans le bureau du Premier ministre. La région finance des maisons médicales un peu partout sur le territoire. Il y a un moment donné, il faut être un tout petit peu cohérent. Il avait aussi dans son programme, évidemment, la réouverture de lignes ferroviaires. Il va passer peut-être par l'hydrogène pour trouver des solutions relativement, pour le coup, écolo. Je trouve que c'est un discours un peu des éléments de langage, quoi. Quand on regarde au cas par cas, il a pris l'exemple des cantines et de l'augmentation dans les cantines de 3%. Il faudra qu'il donne en valeur absolue ce que ça représente. C'est quand même pas non plus... Enfin, c'est pas délirant. On préfère ne jamais augmenter quand on est dans un exécutif. Enfin, bon, 3%, c'est pas non plus complètement délirant. Si c'est pour maintenir une alimentation de qualité pour les gamins dont certains, on le sait, n'ont que ce repas-là de qualité dans la journée, pourquoi pas, sachant qu'il y a derrière des aides. Donc je trouve que c'est un peu une posture de principe, et je salue d'ailleurs, j'en profite pour saluer le la reconduction de la subvention à SOS Méditerranée, qui montre aussi qu'il y a, même si c'est pas directement la compétence des régions, il y a aussi une action qui est faite dans des cas d'urgence absolue comme celui-ci, comme celui de l'Ocean Viking et des gens qui meurent en mer. Qu'il aille leur dire les yeux dans les yeux que ces vies, ces centaines de vies ne valent pas un effort de la part de la région.
Ah, c'était un vœu présenté par le groupe écologiste et voté par la majorité. Effectivement, c'était également jeudi dernier. Charles Fournier, député d'Indre-et-Loire et conseiller régional pendant 12 ou 14 ans. Il vivait, jeudi en tout cas, sa dernière session plénière. Il a prononcé un discours très émouvant et il a expliqué au micro d'un bâton rompu ensuite pourquoi c'était très émouvant pour lui. Écoutez-le.
Émouvant parce que 12 ans comme conseiller régional, je démissionnerai au tout début de l'année 2023. Je préparais ma lettre pendant les vacances et je l'envoie au président. 12 années d'engagement total pour la région, c'est vraiment un échelon pour moi extrêmement important dont on parle pas toujours suffisamment, à mon goût. Et donc, forcément, c'était les derniers mots dans l'hémicycle, adressés à mes collègues, adressés aux habitants de la région. J'ai oublié d'ailleurs de citer le Césaire, j'ai oublié de citer plein de gens, évidemment, dans ces moments-là, parce que j'étais très ému, parce que vraiment, j'ai beaucoup appris ici, et je suis aujourd'hui un homme différent de celui qui est rentré en 2010 au sein du Conseil régional.
Mais pourquoi démissionnez-vous ? Il y a dans cet hémicycle des députés, il y a même un ministre.
Ouais. Parce que moi j'ai toujours défendu le non-cumul des mandats. J'ai toujours été clair avec ça. Là j'avais dit que je restais quelques mois pour assurer un transfert, un lien avec mes collègues du groupe Écologie et Solidarité. Et donc je suis conforme à mes engagements. Après d'autres estiment qu'ils sont en mesure de faire deux mandats à la fois. Moi j'ai peut-être un défaut aussi, c'est que je fais tout à fond. Et donc on peut pas faire deux mandats à fond sans évidemment que ça soit qualitativement discutable. Et donc du coup je préfère mettre toute mon énergie à l'endroit où je pense que maintenant, une nouvelle page de mon histoire s'écrit et là où je serai utile. Et donc, je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Depuis que je suis député, je suis déjà beaucoup moins là. J'avais du mal à suivre les questions et donc je trouve ça beaucoup mieux comme ça.
Quelques mois déjà, au Palais Bourbon. C'est quoi les différences entre les deux mandats ?
Il y en a plein. Alors d'abord, il y a une différence, mais qui n'est pas liée à une différence entre les deux mandats. Mais c'est qu'ici, j'étais dans la majorité à l'Assemblée nationale, je suis dans l'opposition. Donc, c'est quand même pas tout à fait le même exercice. Non, après, la différence, il y a une différence d'ambiance. Et quand je reviens là, je trouve ça extrêmement apaisé, posé, voire parfois même un peu timide. On s'interpelle pas, on se répond pas. À l'Assemblée nationale, il y a une culture du débat, un peu de l'affrontement, de l'interpellation dans l'hémicycle, et donc c'est quand même très 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 différent. Et puis après, peut-être une autre différence assez majeure, c'est que d'un côté, on fabrique des politiques publiques et parfois on subit les défauts de la loi, et de l'autre côté on fabrique des lois en essayant d'imaginer comment elles vont être efficaces et utiles pour être déployées par des communes, des collectivités, des régions, par des acteurs d'une façon générale. Donc c'est quand même pas le même exercice, mais par contre c'est intéressant d'avoir été d'abord élu local puis député, parce que évidemment je nourris mes réflexions de ce que j'ai vécu ici en région.
On a vu des échanges musclés, très musclés, à l'Assemblée nationale. Vous êtes senti comment ?
Alors moi, c'est pas ma spécialité, l'affrontement, l'ajout de verbal, je sais le faire. Hein, voilà, je sais, mais je recherche pas ça. Parfois, par contre, on est pris par l'ambiance, parce que évidemment, on entend des propos qui peuvent venir bousculer nos convictions, et donc on peut spontanément se faire emmener par ça. Je suis plutôt un adepte de la position claire, de la position avec conviction, mais pour autant, je pense qu'on peut le faire de manière calme et en étant tout aussi ferme. Voilà. Et donc, je suis moins fan. Après, des fois, je trouve ça rigolo, hein, parce qu'en fait, des fois, on rigole une espèce de jeu dans tout ça aussi. Mais je suis plus adepte de l'écoute, de la confrontation de fond et un peu moins de la confrontation de forme, sans la juger totalement insupportable. C'est pas le cas. Maintenant, c'est pas mon style. Ouais, mon style, il est plus posé. J'étais connu aussi pour ça ici. Après, je suis pas en reste sur ce que j'ai à dire, hein, et sur mes convictions, mais je pense que j'essaye d'être à l'écoute de tout le monde.
Et comment ça se passe avec le groupe La NUPES ? Est-ce que vous êtes corseté ? Est-ce que vous avez toute liberté, vous, Charles Fournier ?
Alors oui, parce qu'un député, par essence, c'est quelqu'un qui tient sa légitimité d'un scrutin et des citoyens en direct. Et donc, il y a une liberté de vote. D'ailleurs, j'ai écrit le règlement de notre groupe. On cherche à converger sur les positions, mais on a une liberté de vote. Donc, je me sens absolument pas corseté. Maintenant, je trouve qu'il y a une... être dans un collectif, ça oblige aussi. Et donc, moi, je suis très adepte de ça. Et donc, je m'oblige aussi à tenir, à participer à la construction des positions collectives. Et puis après, au sein de la NUPES, je voudrais en dire un mot quand même. Il y a 4 groupes politiques. Tout le monde annonçait au bout d'un mois, 3 mois, 6 mois, que ça allait exploser. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe. Et moi, je vais vous dire, j'apprécie énormément la manière que l'on a de travailler ensemble, la culture commune. On n'est pas d'accord sur tout, mais on arrive toujours à maintenir le dialogue. Et je trouve qu'on est en train d'inventer une façon de faire qui est assez extraordinaire. Et donc, chapeau à tous les groupes de la NUPES. Et pourtant, vraiment, on a des fois des positions qui sont vraiment pas les mêmes, mais ça se fait avec intelligence.
La dernière question. Le groupe écologiste au conseil régional a été renouvelé, vraiment, ouais. Profondément. Beaucoup. Alors, du coup, là, un mot sur... ceux qui vous remplacent, on va parler de Jérémy Godet, on va parler de Gaël Auro, ouais. Dites-nous un mot sur eux, sur elles.
Peut-être juste avant, dire que moi, quand je suis devenu l'héritier de ceux qui étaient là avant, les Jean de Laverne, les Gilles Deguay, j'avais beaucoup de pression sur mes épaules en me disant, oulala, c'est des personnages, ils ont ouvert des sillons, voilà. Et puis, en fait, j'ai réussi. Et en fait, je crois exactement la même chose pour ceux qui arrivent derrière. C'est-à-dire que je pense que leur rôle, c'est d'ouvrir de nouveaux sillons que je n'aurais pas ouverts, de peut-être reprendre une partie de ceux que j'ai ouverts. Et quand je les vois faire, je pars, mais alors hyper tranquille. Voilà. Et j'ai même des échos du travail qui est fait par les uns et par les autres, par des acteurs avec qui j'ai encore des liens et qui me disent que tout va bien. Voilà. Et après, ils auront un style différent, une manière de faire différente. Mais on est un moment de l'histoire, on n'est pas l'histoire, voilà. Et donc, faut avoir cette modestie-là, et donc faut savoir partir aussi au bon moment et avoir confiance dans ce qui va se passer après.
Le groupe écologiste à la région, Mourad, un groupe qui se renouvelle assez conséquemment, j'allais dire. Déjà, à la dernière élection, il y a eu de nouvelles têtes qu'on ne connaissait pas. Je les ai citées, Jérémy Godet, qui est maintenant vice-président. Il a pris toutes les attributions presque de Charles Fournier. Il y a Gaël Lauro qui s'occupe des jeunes. Et puis la présidente de groupe, qu'il ne faut pas oublier, Betsabé Haas, qui est une élue tourangelle. Oui, alors ce groupe-là, et sur le discours de Charles Fournier, si tu avais une réaction.
Oui, alors il dit qu'il arrive dans l'opposition. Alors, je rappelle, c'est une opposition relative, puisque aucun groupe n'a la majorité absolue à l'Assemblée nationale.
Nous sommes
d'accord. Et donc, je crois qu'il arrive dans une période assez particulière où les tensions dont il parlait tout à l'heure, les tensions dont il parlait globalement tout à l'heure naissent du fait qu'il n'y a pas de majorité absolue et que du coup, voilà. Sur la NUPES, je suis un tout petit peu moins optimiste que lui. Il y a des tensions. Il ne faut pas le nier. Ça tient, mais il y a des fissures dues à l'actualité récente de certains membres de groupes politiques qui composent la NUPES. Donc voilà, c'est faut pas non plus mettre ça sous le tapis. Simplement, oui, je pense qu'il a eu la chance d'avoir un espèce d'alignement de planète, puisque, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as cité une élue tourangelle. Tours est passé à gauche avec un maire écologiste. Il a été élu lui-même en Indre-et-Loire. Donc voilà, il y a une espèce comme ça d'alignement de planète qui fait qu'il part effectivement pour une nouvelle aventure. Je salue son départ de la région parce que ça effectivement, ça correspond à une question éthique de non-cumul des mandats. Et effectivement... On peut s'interroger, on l'a déjà fait ici, de savoir comment certains élus peuvent cumuler 2-3 mandats, voire 4, 5, 6 fonctions électives liées à leur mandat, en ayant tranquillement la tête sur les épaules et en se disant qu'ils peuvent assurer et se démultiplier comme ça, de manière, voilà. Donc c'est un respect, je pense que c'est un respect de l'électorat, c'est un respect de ses promesses de campagne. Je lui souhaite bon vent.
Ouais. De même. À bâton rompu, la suite.
À bâton rompu, 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Nous allons parler maintenant de cette fondation, la fondation La Vie au Grand Air, petite enfance. Je crois qu'il faut le souligner. C'est une fondation qui fondation La Vie au Grand Air, priorité enfance, créée en 1927 avec sur la volonté d'intermittents du spectacle. Il faut le savoir et reconnue d'utilité publique en 1982 seulement. Récemment, je vous disais en début d'émission, j'ai été invité à un événement pour Noël, je crois, pour les fêtes de fin d'année, pour les jeunes. Évidemment, j'ai pas pu interviewer les jeunes, mais j'ai rencontré Claire Thiébaud, directrice de la communication et des partenariats, et François Soulette, qui est directeur des établissements de la Fondation dans les départements du Loiret. Il y en a 2, à Orléans et à Montargis. On écoute d'abord Claire Thiébaud, qui est directrice de la communication et des partenariats.
La fondation a été créée en 1927 par des intermittents du spectacle. Donc c'était l'entre-deux-guerres. Et à l'époque, ces intermittents du spectacle reversaient leur cachet, tout simplement pour permettre à des enfants, des jeunes de familles défavorisées, des familles malheureuses, déjà c'était ça, de partir prendre le bon air. Et le prendre le bon air, à l'époque, c'était prendre le bon air à la campagne. Voilà, et d'où la vie au grand air. Et donc c'était déjà, depuis 1927, c'était déjà accompagné dans la protection de l'enfance, des jeunes et leur permettre de grandir et de devenir de les aider à s'épanouir et à devenir les citoyens de demain.
Sur la France, hein, je ne sais pas combien de.
Alors aujourd'hui, nous sommes plus de 1200 collaborateurs et nous accompagnons toujours dans le cadre de la protection de l'enfance. Cette année, en 2022, on a accompagné presque 3900 enfants dans le cadre de la protection de l'enfance. Donc on est une fondation, on est reconnu d'utilité publique et aujourd'hui nous avons 29 établissements. Donc nous ne sommes pas partout en France, nous faisons bien notre travail, notre mission. Donc nous sommes dans l'ouest de la France, essentiellement à Nantes, Saint-Nazaire, maintenant l'Ille-et-Vilaine. Toute l'île de France, dans le 78, 91, 92, 94, 95, il n'y a que le 93 où nous ne sommes pas, pour différentes raisons, parce que l'occasion ne s'est pas faite. Ensuite, nous sommes dans le Loiret, donc à Montargis, à Orléans, à Auxerre, à Sens. Et ensuite, beaucoup dans le Jura, dans le Doubs, et également à Chambéry, Savoie, et vous remontez également à Metz. Voilà, donc nous ne sommes pas en PACA, ni en Occitanie, mais c'est parce que l'occasion ne s'est pas faite. Je pense que c'est aussi une volonté de la direction, de la fondation, d'investir son territoire et d'être vraiment pleinement un acteur régional.
Concrètement, c'est ces jeunes que vous avez, qui sont en difficulté pour la plupart, on y reviendra, vous les amenez à la campagne. Donc alors, il faut des lieux.
Comment ça se passe concrètement? En gros, on accompagne des enfants de 3 à 18 ans, voire plus petits, des enfants qui sortent de pouponnière à 6 mois à la naissance, jusqu'à 21 ans aujourd'hui, puisqu'on on a des contrats jeunes majeurs. Et on les accompagne, donc ce sont toujours des enfants, c'est sur décision du juge. Et donc du coup, par rapport à ça, le juge des enfants, en fonction du parcours, c'est avec de leur parcours, de ce qu'ils ont connu, de leur âge également, c'est l'aide sociale à l'enfance, puisqu'on travaille avec l'aide sociale à l'enfance, qui va se tourner vers des structures comme la nôtre et essayer de placer les enfants. Donc on a un certain nombre de dispositifs pour accompagner ces enfants. Donc on a un très grand nombre de dispositifs. Ça peut être soit les dispositifs classiques comme des maisons d'enfance à caractère social, ce qu'on appelle les MECS, où là ce sont des grosses maisons qui peuvent accueillir jusqu'à 10 enfants. Donc un enfant est seul ou à deux par chambre. Et puis il a toute une structure, donc il y a 5 chambres. Donc vous avez un espace de vie, vous avez souvent un espace extérieur, vous avez une maîtresse de maison, vous avez des personnes qui viennent, toutes les équipes socio-éducatives qui sont là, les éducateurs, les psychologues, pour accompagner les enfants à l'école le matin, parce que c'est des enfants qui vont à l'école, ils ne sont pas déscolarisés, pour aller les chercher en fin de journée, pour aller faire leurs activités parce qu'ils font du foot aussi, où ils font de la musique, où ils font plein de choses. Et puis, il y a aussi les psychologues qui sont là pour les accompagner, des psychiatres dans certains cas aussi, parce qu'on a des accueils éducatifs thérapeutiques, notamment à Paris. Et donc, on a toute un accompagnement éducatif, justement, pour accompagner ces enfants en fonction de... Surtout quand il s'agit d'enfants placés, donc on les fait grandir, on a des institutions pour les aider. On a d'autres types d'accueil, de dispositifs, par exemple, comme ce qu'on appelle l'accueil au domicile, le placement à domicile. Et là, on essaie de maintenir le lien familial quand c'est possible, mais là, ça veut dire que ce sont nos équipes socio-éducatives qui vont au domicile des familles et de l'enfant. Donc c'est un encadrement un peu différent parce que quand nous ne sommes pas là, il faut être sûr que la situation ne dégénère pas. Donc il y a un encadrement qui est un petit peu renforcé, un autre dispositif, mais voilà ce qui se fait. Après, vous avez ce qu'on appelle de l'accueil de jour. Et puis après, quand les enfants grandissent, on a aussi ce qu'on appelle de la semi-autonomie. Et de l'autonomie, c'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, 16 ans, quand on voit que l'enfant commence à être, le jeune commence à être un peu mature, à 18 ans, il peut se retrouver autonome. Et donc, par rapport à ça, il va falloir qu'il sache gérer sa facture d'électricité, avec ses d'actualité, mais aussi savoir manger, donc se faire ses repas. On les apprend à se faire des repas, à lancer leur lessive, à s'entretenir, toutes ces choses-là, pour que s'ils arrivent, quand ils vont arriver à 18 ans, tout le monde n'a pas le même capital social à la naissance. Ça veut dire que ces enfants-là, ils doivent être autonomes. On les prépare aussi à l'autonomie. Donc voilà, donc il y a tout ce type d'accueil. Et puis après, il y en a encore plein d'autres. Hein, et après, on a aussi, j'ai oublié de parler aussi, on accueille aussi des mineurs non accompagnés. Donc ça, ce sont des jeunes qui malheureusement viennent sur le territoire français, qui sont mineurs. Et là, qui ont aussi vraiment, parce que vu la détresse de ce qu'ils ont bien souvent rencontré, connu dans leur propre pays, quand ils arrivent en France, c'est pas simple. Donc eux aussi ont un parcours atypique. Et là aussi, on les accompagne comme on peut, justement, pour qu'ils aient un épanouissement le plus réel aussi possible. Voilà.
En faire des citoyens, j'ai vu ça en rentrant. Monsieur Soulette, la vie au Grand Air dans le Loiret, c'est Orléans et Montargis.
Oui, c'est Orléans où on a deux maisons d'enfants de 13 jeunes, 6-18 ans. Une dans Orléans et une autre à Saint-Thie, dans un village à côté. Voilà. C'est également un site d'accueil de jour. Claire vous disait, on accueille des jeunes placés en journée. Hein, donc effectivement, c'est des adolescents 14-18 ans qui sont en rupture de parcours, hein, qui sont déscolarisés ou qui sont en très grande difficulté. Donc ils ont des mesures de 6 mois ou un an pour qu'on puisse les remettre dans leur circuit le plus normal possible au travers de plein d'activités. C'est vraiment un outil intéressant puisque on peut faire absolument ce qu'on veut avec eux pour les remobiliser, les remettre dans les apprentissages et puis les remettre un peu sur pied. Quoi. Ouais.
Concrètement sur l'apprentissage, comment vous faites? Vous décelez chez les enfants que vous avez, alors, telle aptitude ou telle, ou pas?
Non, les enfants qui arrivent chez nous, on travaille, comme disait Claire, quasiment exclusivement dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est-à-dire que la protection de l'enfance, c'est des enfants qui nous sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc c'est soit le juge, soit le département qui nous confie ces enfants. Voilà. C'est pas nous qu'allons les chercher dans les écoles ou ailleurs. Donc souvent, c'est des enfants qui ont fait l'objet d'un signalement d'un voisin, d'une assistante sociale, de quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des problèmes dans cette famille. Et du coup, ben, l'enfant finit par être placé soit en hébergement, soit en site d'accueil de jour, ou en placement à domicile maintenant, puisque le placement à domicile, c'est assez nouveau dans le département, puisqu'il y en a que depuis 2018 ici. Voilà. Donc ça, c'est pour Orléans. Donc deux maisons d'enfants, un site d'accueil de jour. On a également un espace rencontre. Alors ça, c'est pas de la protection de l'enfance. Un espace rencontre, c'est un lieu neutre et sécurisé, donc dans nos bureaux d'Antigna, là, où les enfants viennent rencontrer leurs parents quand il y a conflit parental. Voilà. Donc généralement, c'est des mesures JAF, hein, juge aux affaires familiales, les enfants viennent dans un lieu protégé. Alors c'est pas une visite médiatisée, souvent on fait la confusion. Il n'y a pas du tout d'éducateur ou de psychologue avec les parents et l'enfant, mais en tout cas les rencontres sont surveillées, voilà, pour que ça se passe bien. Donc ça c'est généralement le samedi ou le mercredi, voilà. Donc ça, c'est pour Orléans. Pour Montargis, on a également un espace rencontre, hein, de la même manière qu'à Orléans. Également un site d'accueil de jour, comme à Orléans. On a des familles d'accueil aussi. On a 6 familles d'accueil qui accueillent 11 enfants. Et puis un service de placement à domicile où on a 90 mesures pour une quinzaine d'éducateurs. Quoi. Voilà.
Et à Orléans, vous avez combien d'enfants placés?
Alors, à Orléans, on a une cinquantaine d'enfants. 90 sur Montargis plus 20, donc ça fait 110. En tout sur le département, on touche à peu près 300 enfants avec les espaces rencontres. Voilà.
Une question qui s'adresse à vous deux. En rentrant dans cette pièce, j'ai vu pour en faire des citoyens. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Ça veut dire que ces enfants viennent de familles en difficulté. De toute façon, il y a de la difficulté, hein, quelle qu'elle soit. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a une difficulté, qu'elles viennent des parents ou qu'elles viennent d'eux-mêmes. Hein, mais bien souvent, un enfant, quand il grandit dans une famille, ça vient souvent de l'environnement familial et notamment des parents. Donc s'ils sont là, c'est parce que ils ont eu des difficultés d'éducation, hein, au départ. Et donc on est effectivement là pour qu'ils aient toutes les armes pour être des vrais citoyens à 18 ans. Alors pourquoi 18 ans? C'est parce que dans le département, par exemple, Claire disait que la fondation pouvait accueillir les jeunes jusqu'à 21 ans. Dans le département du Loiret, ce n'est pas le cas, hein, puisqu'on n'a pas de financement pour les jeunes 18-21 ans. Voilà. Pour l'instant, hein, la loi Taquet, la dernière loi de 2022, va obliger ça, mais pour l'instant, on n'a pas ces moyens-là. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, à 18 ans, ils peuvent être dehors. Voilà.
Citoyens épanouis, moi, je dirais, un peu plus. Bah, effectivement, ils viennent d'un collectif, d'un familial. En général, il y a beaucoup d'enfants qui ont eu des problèmes de précarité, mais aussi beaucoup de violence. Beaucoup de violence, moi, c'est quelque chose que vraiment j'ai découvert, et d'abus sexuels, d'abus, de harcèlement, de beaucoup de violence, beaucoup de détresse. Et quand ils arrivent, souvent, c'est des enfants qui sont abîmés. Et nous, notre mission, c'est d'arriver aussi à les remettre dans le collectif. Donc à se reconstruire et à se remettre dans un collectif, dans un environnement, d'arriver à bien s'insérer pour qu'ils aient aussi toutes les armes, justement, à chance égale avec les autres enfants, ce qui n'est pas toujours gagné. Voilà. Parce que c'est ce que je disais, tout le monde ne part pas avec le même capital social à la naissance. Et les enfants, certains arrivent vraiment très, très abîmés.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. Il y a un quart des gens qui vivent dans la rue aujourd'hui qui sont des anciens enfants de l'ASE. Quoi. Voilà.
Absolument, on les a, ces chiffres-là. Récemment, j'avais en interview le président du conseil départemental, Marc Godet, qui disait que malgré tous les efforts faits par la collectivité, ils avaient du mal à recruter. Alors, vous êtes sur Radio Campus Orléans, nous avons beaucoup de jeunes qui voudraient vraiment faire ce métier. Qu'est-ce qu'il leur faut faire? Quelles difficultés il y a pour que les jeunes n'y aillent pas spontanément?
Alors, c'est un métier qui est... Alors, je pense qu'il y a aussi une question d'époque et de mode. Hein. C'est vrai que moi, je suis plus très jeune. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé comme éducateur, c'était un métier qui était plutôt à la mode, hein, à l'époque. Le social, c'était quelque chose qui était important. Aujourd'hui, les jeunes sont souvent plus orientés vers l'environnement, vers l'écologie, ce qui est tout à fait bien, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais le social, du coup, souffre un peu de ce désintérêt un peu généralisé. Évidemment que c'est un métier, un très très beau métier, hein, qui n'est pas forcément facile, mais maintenant à la fois il n'y a aucun métier facile, mais en tout cas très intéressant. Et on peut y rentrer à presque tous les niveaux, hein, parce que il n'y a pas que des éducateurs spécialisés, il y a aussi des moniteurs éducateurs, il y a aussi des accompagnants à la vie sociale, enfin il y a plein de métiers comme ça, du niveau 1 au niveau 6, hein, qu'on peut faire dans ce cadre-là. Voilà.
Vous avez des psychologues, vous avez des thérapeutes, vous avez différents métiers. Hein. Il y a une très grande palette d'accompagnement pour nos jeunes, quoi.
Il n'y a pas un manque de médiatisation, vous qui travaillez sur la com, sur ces métiers-là, ces métiers du social, non?
Alors, je pense qu'effectivement, il y a un manque de communication, il y a peut-être aussi un manque d'attractivité. Le secteur, c'est un secteur quand même, malheureusement, qui paye quand même pas très, très, très bien. Et puis aussi qui demande beaucoup d'investissement, parce que j'allais dire, c'est un investissement, c'est un métier où vous devez être, j'ai envie de dire, un petit peu investi 100%. La protection de l'enfance, le matin vous arrivez, le soir à 17h quand vous partez, ou à 18h, vous laissez un enfant quand même.
Hein. Et vous-même personnellement, pourquoi êtes-vous arrivé dans ce domaine?
Moi, c'était par sens, voilà, puisque je voulais vraiment, aujourd'hui j'ai 58 ans. Et j'ai fait la majeure partie de mon activité professionnelle dans un autre secteur, qui était le conseil en stratégie. Voilà. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de découvrir la protection de l'enfance. Voilà. Donc c'est vraiment donné du sens à mon activité.
Et vous, Monsieur Soulet?
Moi, j'ai toujours été dans cet environnement du lien social. Voilà. Dès l'âge de 14 ans, j'étais déjà dans des mouvements comme ça, de jeunes, de groupes sociaux. Et puis, naturellement, à 19 ans, je suis rentré dans le métier, puis j'en suis plus sorti. Quoi.
Je vous remercie pour votre accueil.
Merci à vous.
Merci à vous.
Claire Thiébaud, directrice de la communication et des partenariats, et François Soulet, directeur des établissements de la Fondation du département dans le Loiret, la Fondation La Vie au Grand Air. Une réaction très rapide.
C'est passionnant et c'est vers ces métiers et ces structures que devrait aller l'effort national, tout simplement. Chapeau. Bah, je ne connaissais pas, très honnêtement. Et merci à Hassan d'avoir pris le temps de les rencontrer.
Ah ben, merci à toi d'être venu dans cette émission. C'est la fin d'un bâton rompu pour cette année 2022. Morad, je te souhaite des très belles fêtes à partager avec tes proches.
Ah ben, j'ai mon déguisement de Père Noël qui est prêt. Ça va bien se passer.
Que j'embrasse. Et puis à vous, amis auditeurs à Tours et à Orléans, également de belles, belles fêtes. Prenez soin de vous. On va se quitter avec une chanson de Noël, forcément. Mais bon, c'est très difficile de choisir. J'ai choisi Otis Redding Otis Redding. Ça s'appelle Merry Christmas, Baby. Passez d'excellentes fêtes et on se revoit en janvier.
Excellente fête.